Chapitre 39. Jour malheureux. Quinze ans plus tôt. C'était le début du mois de novembre. Les premières chutes de neige commençaient à saupoudrer Verbier. Le froid s'était installé durablement. Lev arriva devant le palace et contempla avec un sourire ému la façade de l'imposant bâtiment. Il y avait maintenant 3 mois qu'il s'était installé à Genève. Il revenait régulièrement passer le week-end à Verbier pour rendre visite à son père et à M. Rose. Lev entra dans le grand hall de l'hôtel. M. Rose, le voyant arriver, s'écria « Le fils prodigue !» À chacun de ses retours au palace, Lev était accueilli en héros par le propriétaire de l'hôtel. « Bonjour, Monsieur Rose !» le salua Lev, un peu gêné par cet élan d'enthousiasme.
« Suis-moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi !»
Monsieur Rose entraîna Lev dans son bureau, où il lui servit un café.
« Tu ne devineras jamais qui est venu la semaine dernière !»
dit Monsieur Rose.
« Allez, je te le donne en 1000, Abel et Besner. Ils voulaient préparer le grand week-end. Enfin bref, nous avons discuté un peu et ils ne tarissaient pas d'éloges, souvent dithyrambiques, à ton sujet. »
Monsieur Rose semblait émerveillé, sans être étonné, par l'ascension de son protégé. Il ne pouvait s'empêcher d'éprouver pour Lev une fierté toute paternelle, considérant que c'était un peu grâce à lui s'il avait pu prendre son envol.
« J'ai été mis sur la touche, » annonça Lev d'emblée.
« Je crois qu'il y a eu une levée de boucliers au sein de la banque et je suis désormais cantonné à des tâches de stagiaire. »
« Je sais tout ça, » dit M. Rose. « Abel et Besner m'a tout raconté. Il m'a parlé de son père qui est apparemment plutôt vieux jeu. Mais il m'a aussi dit que son père était très malade. Ses reins ne fonctionnent plus et le grand-père Besner est increvable, »
le coupa Lev. « Apparemment, ça fait des années qu'on le dit condamné. »«
Vas-tu me laisser parler ?» s'agaça gentiment M. Rose. « Le grand-père Ebesner est mourant. Une question de semaine. C'est Abel qui me l'a dit. Confidentiel, bien entendu, mais je sais que tu ne le répéteras pas. Il y aura un nouveau président lors du prochain grand week-end en la présence d'Abel. »
« Ça veut dire que Macaire va devenir vice-président, » comprit Lev.
« Exactement, » s'enthousiasma M. Rose. « Et une fois son fils au conseil, Abel Ebesner n'aura plus de conflit de loyauté entre lui et toi. Il m'a tout raconté, je te dis. » Dès le mois de janvier, il te nommera banquier en titre, avec tes propres clients, tu te rends compte? Tu vas gagner plus d'argent que tu ne l'avais jamais imaginé. Tu seras parmi les grands banquiers genevois, à ton âge.
Lev ne put s'empêcher de sourire. Cette promotion lui ouvrirait les portes de la haute société genevoise. Il n'aurait plus à cacher sa relation avec Anastasia. Elle n'aurait plus à mentir à sa mère sur son identité. Il n'aurait plus à cacher ses origines. Désormais, il était quelqu'un. Il avait réussi. Son nom allait devenir un nom. Et l'argent. Il pourrait demander Anastasia en mariage. Célébration dans une année ou deux, le temps de mettre un peu d'argent de côté. Songer à un emprunt immobilier aussi. Peut-être même que d'ici quelques années, en fonction de ses résultats et s'ils étaient conformes aux prédictions d'Abel et Besner, il pourrait acheter la maison du chemin Byron avec terrasse surplombant le Léman. En attendant, louer un magnifique appartement dans un quartier cossu de Genève, idéalement proche de la banque. Il aimait la rue Saint-Léger, à quelques pas de la vieille ville et juste devant le parc des Bastions. Monsieur Rose interrompit ses rêveries.
« Je t'ai fait installer dans une belle chambre pour ce week-end, » lui dit-il.
« Il ne fallait pas, Monsieur Rose, je peux dormir sur le canapé chez mon père. Déjà la dernière fois, c'est trop. »
« Allons, ce n'est rien de trop. Ça me fait tellement plaisir. Il faut célébrer ta réussite. »
Seul, le père de Lev était beaucoup moins enthousiaste que M. Rose quant à la carrière de son fils. Ce même jour, alors qu'ils déjeunaient tous les deux dans un restaurant de Verbier, Seul dit à Lev, sur un ton qui sentait le reproche,
« La banque te change, mon fils. Tu es différent. »«
Différent comment ?»«
Différent, »
trancha le père, sans donner plus d'explications. Lev, souhaitant changer de sujet, annonça avec fierté,
« Monsieur Rose m'a octroyé une chambre de l'hôtel pour le week-end. »
« Exactement ce que je dis. Tu loges au palace comme un client désormais. Tu es passé de l'autre côté. Tu veux peut-être que je te porte tes bagages en chambre ?»«
Oh, arrête, papa, tu es ridicule. » »«
Enfin bref. Allez, parle-moi de Genève et de ta grande vie là-bas. »
« Ce n'est pas la grande vie, papa.
Je m'efforce de faire mes preuves à la banque, mais tout le monde me met des bâtons dans les roues.
Je croyais que tu avais déjà pris des responsabilités.
On me les a retirées. On me dit que tant que je ne ramène pas au moins un client important, je resterai cantonné à un rôle de stagiaire.
Tu veux toujours aller plus vite que la musique,
reprocha Sol. Tu es de quel côté, papa ? S'exaspéra Lev.
Allons, mon fils, ne t'énerve pas. Et cette jolie blonde pour laquelle tu es parti vivre à Genève, comment va-t-elle ?
Anastasia.
Anastasia, c'est ça. Quel charmant bout de femme.
Lev raconta longuement Anastasia. Il raconta combien il l'aimait et combien elle le rendait heureux. Il raconta leur rendez-vous secret après les journées de travail à la banque, au sein de laquelle tout le monde ignorait leur relation. Le père eut soudain une moue de désapprobation.
« Tu dis que c'est le grand amour, mais le grand amour, ça ne se cache pas des autres. »«
Si, justement, » expliqua Lev. « C'est pour nous protéger. »
« Vous protéger. C'est elle qui t'a fait avaler ça ?
Non, mais si tu veux mon avis, elle a honte. »« Honte ?» s'étrangla Lev.
« Honte de quoi ?»« Honte de toi, de celui que tu es réellement. Regarde-nous, Lev, nous appartenons à la race des tout-petits. »
Lev s'insurgea en entendant cette remarque. « Non, » protesta-t-il. « Anastasia dit que c'est mieux ainsi. Les gens ne nous laisseraient pas tranquilles, les gens détestent les couples qui s'aiment. » Tiens, par exemple, pour éviter d'avoir sa mère sur le dos, on lui a fait croire que je suis un prince russe, le comte Romanov. Et ça marche. Elle nous fiche une paix royale.
Mais Sol, loin de trouver l'anecdote drôle, s'irrita. Le comte Romanov, pourquoi ? Parce que Levovitch, c'est pas assez bien ?
Non, tu comprends pas. C'était une plaisanterie. Et puis, ça devrait te plaire. J'interprète ce personnage de Romanov à merveille.
Tu vois ? Rebondit Sol. Tu serais un formidable acteur comique.
Pas. Je veux pas être un acteur comique. Je veux être banquier, avoir une situation, avoir de l'argent.
Ah bon ? Ironisa le père. Parce que tu penses que l'argent te rendra meilleur et plus fréquentable ?
N'oublie pas qui tu es et d'où tu viens, Lev Levovitch, fils de saltimbanque.
Un banquier. Quand je pense que tu te fais passer pour un comte. Le comte Romanov ?
Jubila Olga à ce même instant à sa table chez Roberto lors de son déjeuner hebdomadaire avec ses filles. Irina, sans bien comprendre ce que sa mère lui racontait, afficha un air ravi. Anastasia, à côté d'elle, baissa la tête. Olga poursuivit.
« J'ai préféré attendre un peu avant de te prévenir, » dit-elle à Irina, histoire d'être certaine que c'était du sérieux. Donc voilà, ta sœur est en couple avec le comte Romanov et c'est le grand amour.
« Est-ce qu'il est riche ?» demanda Irina.
Riche ? Tu veux dire riche comme Crésus, oui ?
Et même plus encore, il fait l'aumône à Crésus.
Anastasia, chérie, raconte donc à ta sœur où il habite.
Il habite une suite à l'hôtel des Bergs, dit à mi-voix Anastasia qui s'enfonçait dans son mensonge.
Une suite à l'hôtel des Bergs !
Gueula Olga.
Rien que ça !
Irina était furieuse que sa sœur se soit trouvée un mari plus riche que son gérant de fortune. Elle allait encore l'éclipser.
« Vous savez, » dit finalement Anastasia, « ce n'est pas l'argent qui compte. Le plus important, c'est qu'il est merveilleux, tendre, généreux, très intelligent, beau comme un dieu. »«
Raconte comment est la suite !»
l'interrompit sa mère.
« Tu ne nous en as rien dit !»«
C'est une grande suite, » bredouilla Anastasia.
« Donne-nous des détails, ma fille !
Tu y passes toutes tes nuits !»«
Anastasia découche !»
s'insurgeait Irina qui n'avait jamais eu le droit de découcher jusqu'à son mariage.
« Tous les soirs !»
annonça fièrement la mère.
« Pour la bonne cause !»«
Alors, la suite ?»«
C'est vraiment très beau, très luxueux, avec une vue imprenable sur le Léman. »«
Est-ce qu'il y a du cristal et du jade partout ?»
s'enquit Olga.
« Oui, partout. »
Olga frémit de bonheur.
« Et il a un métier, le comte Romanov ?»
demanda alors Irina.
« Eh bien, justement !» répondit Olga.
« Et c'est le plus beau !» Il est le bras droit d'Abel Ebesner.
Il travaille à la banque Ebesner ?
Anastasia eut envie de disparaître sous la table.
Il est l'un des grands patrons de la banque !
Jubila Olga.
Abel Ebesner ne va pas aux toilettes sans lui demander son avis avant. Si jeune et déjà au sommet. Assis sur son tas d'or, à fouetter les employés paresseux.
Demande à ton mari, il le connaît sûrement.
Vous pourriez d'ailleurs dîner tous ensemble.
Anastasia sentit la panique l'envahir. « Il vaudrait mieux éviter d'en parler, » bégaya-t-elle.
« Parce que Lev et moi, nous n'avons pas dit que nous étions ensemble. Je ne suis qu'une secrétaire. Ça ferait mauvais genre à la banque. Il pourrait avoir des ennuis, c'est très mal vu. Je t'en supplie, Irina, n'en parle pas à ton mari. Je ne voudrais pas mettre Lev dans l'embarras.
« Ma chérie, lui dit alors Olga d'une voix rassurante, tu n'as rien à craindre. Les grands chefs fréquentent qui ils veulent. Et puis, il va être temps d'en finir avec ta lubie de vouloir travailler. Tu vas quitter ton ridicule poste de secrétaire aussitôt que vous serez fiancée. S'occuper de son mari, c'est une fonction à plein temps. »
Après le déjeuner, en sortant du restaurant, Anastasia fit quelques pas avec sa sœur.
« Irina, lui confia-t-elle, j'ai menti. Il faut que tu m'aides. Lev Levovitch n'est pas contre Romanov. Il était employé au palace de Verbier et maintenant il travaille à la banque. Il n'est pas le bras droit d'Abel Ebesner, il est très doué, mais pour l'instant il est seulement stagiaire.
Alors, tout est inventé?
La suite au Berg et tout le reste?
Tout est inventé. C'était la seule façon de ne pas avoir maman sur le dos. Je t'en supplie, n'en parle à personne. Maman me tuerait si elle apprend la vérité et elle m'interdirait de voir Lev.
Le visage d'Irina s'illumina. Elle était tellement soulagée d'apprendre que sa sœur vivait en couple avec un petit stagiaire, ancien employé d'hôtel de surcroît. Sa villa avec piscine reprenait soudain toute sa grandeur.
« Ne te fais aucun souci, » promit-elle à Anastasia. « Ton secret sera bien gardé avec moi. »«
Merci. Je te le revaudrai. »
Irina, appréciant sa position supérieure, ne put s'empêcher une petite leçon de morale à sa cadette.
« Mais tu ne devrais pas perdre ton temps avec une amourette qui n'en vaut pas la peine. »
Je l'aime. Je l'aime plus que tout au monde. C'est avec lui que je veux passer le reste de mes jours.
Ne dis pas de bêtises, Anastasia. Il n'y a pas que l'amour dans la vie. Pense à ton avenir.
Tu ne comprends pas. Je me fiche éperdument de l'argent. Tout ce que je veux, c'est aimer et être aimé.
Le lendemain matin, dimanche, à Verbier, Lev prenait un café au comptoir du bar du palace. Un homme s'assit à côté de lui. Il n'y fit d'abord pas attention. Jusqu'à ce que l'homme lui parle en russe.
« Chassé comme un manant, revenu comme un prince !»
C'était Arnogol. Lev se tourna vers lui, surpris, et le salua d'un geste de la tête. Arnogol lui dit alors
« La rumeur dit que tu te destines à une grande carrière à la banque Besner. »
« Ce n'est qu'une rumeur, monsieur Arnogol.
Tu es trop modeste, jeune Levovitch. »
Lev ne répondit rien et retourna à sa tasse de café. Il n'avait aucune envie de converser avec Tarnogol, et comme il n'était plus employé de l'hôtel, il n'avait plus à le faire. Mais Tarnogol n'en avait pas terminé avec lui.
« Tu me dois une faveur, » dit-il.
« Ah bon ?» s'étonna Lev.
« Je t'ai sauvé la vie. Je t'ai permis de partir d'ici. Sans moi, tu serais encore employé de cet hôtel.
Vous m'avez surtout fait virer comme un malpropre.
Allons, tu sais pertinemment que ce n'est pas vrai. » « Si tu ne voulais pas partir d'ici, tu n'aurais pas perdu ton sang-froid avec moi en août. Je suis ton bienfaiteur. »«
Non mais je rêve. Et qu'est-ce que vous attendez de moi exactement ?»«
Je voudrais que tu m'introduises auprès d'Abel Besner. »
La curiosité de Lev était piquée.
« Que voulez-vous à M. Besner ? » demanda-t-il d'un air méfiant.
« Je voudrais lui parler. J'ai de l'argent à mettre en sécurité. Beaucoup d'argent. » Je voudrais le déposer à la banque Ebesner.
« Vous n'avez pas besoin de moi pour ouvrir un compte à la banque Ebesner ?» fit remarquer Lev.
« N'en sois pas si sûr. Auguste Ebesner a des principes. Il regarde la couleur de l'argent. Or, le mien n'a pas de couleur, si tu vois ce que je veux dire. Je sais que si je viens avec toi, Abel Ebesner sera moins regardant. Je sais que tu as sa confiance. Ce sera donnant-donnant. » « Grâce à toi, j'ouvre un compte là-bas et en échange, je suis ton premier client important. Ta carrière sera lancée. Il y a beaucoup d'argent en jeu. »
Lorsque de retour à la banque le lundi, Lev proposa à Abel Ebesner d'organiser un rendez-vous avec Tarnogol, celui-ci fut enchanté. Il avait entendu parler de Tarnogol et de sa fortune par M. Rose au palace de Verbier. C'est ainsi que le lendemain, mardi, dans le salon rose du cinquième étage de la banque Ebesner, Abel Ebesner et Lev reçurent Signor Tarnogol, qui avait fait le déplacement à Genève pour l'occasion.
« Je crois en votre banque, » expliqua Tarnogol. « Je crois en la stabilité de la Suisse. Je serai heureux de vous confier une partie de mes avoirs. »
« Et nous serions très heureux de vous accueillir comme client, » assura Abel.
« Ce jeune homme à côté de vous, »
dit Arnogol en désignant Lev, est une perle rare. J'aimerais qu'il soit mon interlocuteur privilégié.
Lev est l'un des grands espoirs de cet établissement, acquiesça Abel. Mais il n'a pas encore le titre de banquier à proprement parler, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore sa propre clientèle.
Je le sais, dit Arnogol. C'est encore mieux pour moi. Il peut se consacrer entièrement à moi. D'ailleurs, monsieur Besner, à partir de combien est-on un gros client de votre banque?
Il n'y a pas de gros et de petits clients, répondit Abel Besner.
Voici la somme que j'aimerais déposer dans votre banque. Dites-moi si ça fait de moi un gros client.
Arnogol attrapa un bloc de papier et un stylo sur la table et y inscrivit le chiffre 1, suivi d'une interminable succession de zéros. La somme affichée laissa Abel et Besner sans voix.
Dites-moi où je dois signer, réclama Arnogol, et j'ai fait immédiatement transférer les fonds.
Abel, d'un ton de diplomate, lui dit alors:
« Nous serions plus qu'heureux de vous accueillir comme client, monsieur Arnogol. Mais avant d'accepter vos fonds, au vu de la somme que cela représente, nous devons impérativement disposer de quelques informations sur leur provenance. Tout ceci n'est qu'une simple procédure. Je regrette d'avoir à vous infliger un peu de paperasse, mais vous savez que les autorités de surveillance bancaire sont sans cesse sur notre dos pour s'assurer que nous vérifions l'origine de l'argent que nos clients nous confient.
« Appelez un chat !» s'amusa Arnogol.
« Vous avez besoin d'être certain que je ne blanchis pas d'argent dans votre banque. Vous pouvez être rassuré. Donnez-moi les documents, je vais les transmettre à mes avocats et je vous retourne tout ceci d'ici la fin de la semaine. »
Le rendez-vous terminé, une rumeur traversa aussitôt la banque. Lev Levovitch était sur le point d'apporter un très gros client à la banque qui pourrait le placer d'un seul coup parmi les plus importants gestionnaires de l'établissement. Cette information fut débattue le lendemain au conseil de la banque. Ni les deux Hansen, ni Auguste et Besner n'avaient imaginé que Lev déniche aussi rapidement un client pareil.
« Tu m'as dit que tu connaissais ce Arnogol de Verbier ?»
demanda Horace à Abel comme pour minimiser le rôle de Lev dans ce fructueux apport.
« Non, je ne le connais pas. » Je l'ai effectivement croisé au palace de Verbier où il séjourne régulièrement, mais c'est par Lev qu'il a approché la banque. Il m'a d'ailleurs expressément demandé que Lev soit son gestionnaire. C'est trop d'argent pour un premier client, considéra Auguste. Ton Lev se retrouverait débordé, et s'il perd les pédales, c'est nous qui paierons les pots cassés. Un client est un client, protesta Abel. Tu voulais qu'il ramène un client pour devenir banquier, voilà son client. « Il est très bel homme, ce Lev, » souligna Horace avec un sourire entendu. « Peut-être qu'il donne un peu d'affection masculine à ce Arnogol. »«
Tu es affligeant, Horace, » lui dit Abel.
« Écoutez, » trancha Auguste, « attendons que Arnogol ait signé avant de nous monter la tête. Nous verrons ensuite ce qu'il en est de ce Lev. »
Deux jours plus tard, Arnogol était de retour dans le salon rose. Face à Lev et Abel et Besner, il déposa sur la table en ébène une épaisse enveloppe contenant les différents formulaires bancaires.
« Comme demandé, » dit Arnogol, « voici toutes les réponses à vos questions sur mon argent, ainsi que les documents d'ouverture de compte. Tout est dûment signé. Je vous remercie infiniment pour votre diligence, »
se réjouit Abel et Besner en voulant prendre l'enveloppe. Mais Arnogol l'en empêcha, posant sa main dessus pour la garder vers lui.
« Un instant, je vous prie, » dit-il alors. Vous aviez vos exigences, j'ai les miennes, et elles sont au nombre de deux.
Abel fronça les sourcils.
Je vous écoute.
Tout d'abord, je voudrais m'assurer que Lev sera bien mon banquier.
Je dois encore faire valider ceci par le conseil de la banque, expliqua Abel. Mais ça ne posera aucun problème. Vous avez ma parole. Quelle est votre deuxième demande?
Racheter une partie de votre banque,
annonça Arnogol dans un sourire sournois. Le visage d'Abel et Besner se ferma aussitôt. Lev resta interloqué.
« Ma banque n'est pas à vendre !»
dit Abel d'un ton ferme.
« Je ne suis pas un homme à qui on refuse quoi que ce soit, » répliqua Arnogol.
« Et moi je ne suis pas homme à me laisser forcer la main !»
tonna Abel et Besner.
« Je vous rappelle que la somme que je m'apprête à déposer vous placera encore plus loin devant vos concurrents. Vous imaginez les gros titres des journaux économiques à la fin de l'année qui annonceront l'explosion de votre masse sous gestion.
J'en suis conscient.
Alors il me semblerait juste que l'on m'octroie un morceau du gâteau. »
La tension monta lentement dans l'élégant salon qui ne connaissait d'ordinaire que des conversations cordiales. Lev, sentant la situation lui échapper, ne savait plus où se mettre. Il aurait dû se méfier de Tarnogol. Il était tombé dans le panneau, une fois de plus. Et à présent, il ne pouvait plus reculer. Sur le moment, Abel Ebesner évita l'escalade en suggérant à Tarnogol de prendre le week-end pour réfléchir. Il fut convenu qu'ils se retrouveraient tous les trois le lundi suivant. Tarnogol arriva tout sourire au troisième rendez-vous.
« Vous aviez raison, » confia-t-il à Abel Ebesner. « Le week-end m'a porté conseil. C'était une idée totalement ridicule de vouloir acheter des parts de votre banque. »
Lev soupira de soulagement. Abel rendit son sourire à Tarnogol et lui dit
« Je suis très heureux de l'apprendre. » Après mûre réflexion, reprit Tarnogol d'une voix presque guillerette, « C'est la totalité de votre banque que je vais racheter. »
Abel Ebesner perdit immédiatement patience.
« Comment osez-vous venir dans ma banque me parler sur ce ton? Je crois que nous allons en rester là de nos discussions. » « Vous avez tort de me sous-estimer, » répondit Tarnogol d'un ton menaçant. « Vous ne savez pas de quoi je suis capable. » « Et vous, vous vous trompez totalement sur mon compte, » répliqua Abel.
Tarnogol éclata d'un rire mauvais.
« Vous savez quelle est la différence entre vous et moi, Abel? C'est que mes fonds sont illimités. Je finirai par racheter votre banque. Je la rebaptiserai Banque Tarnogol et vous me servirez le café. »
À ces mots, Abel Ebesner, furieux, ouvrit la porte du salon pour inviter Tarnogol à vider les lieux. Tarnogol, en tournant les talons, dit encore à Abel
« Vous aurez de mes nouvelles. Vous regretterez bientôt cet affront. »
Lève enfoui de désespoir, son visage entre ses mains. Il allait être la risée de la banque.